R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Kiasma dans le cadre de l'exposition Sommeil d'Ismaïl Barry. Donc dans le cadre de cette exposition, en plus du projet dans lequel on est installé, qui est ce projet d'exposition d'Ismaïl, il y a tout un fil de discussion qui a été développé. Ce fil de discussion a été développé même en amont de l'exposition elle-même, puisque cette discussion, ces correspondances, ces échanges de points de vue traversent un peu le travail qu'on réalise avec Ismaïl depuis 2013, qui maintenant aboutit, ça passe vite, je sais, et qui maintenant aboutit à la fois à l'exposition, mais à la fois le traverse, puisqu'il s'agit aussi d'un ensemble de discussions qui nourrissent les pièces qu'il a réalisées ici à Kiasma, mais qui aussi produisent en quelque sorte d'autres formes connexes à ces pièces-là, des discussions qui prendront peut-être à terme la forme d'autres pièces ou qui existeront sous la forme de publication. Alors on a discuté avec Ismaïl au début tous les deux dans le cadre de l'exposition au mois d'octobre dernier pour ouvrir un peu un cycle qui a été poursuivi par une discussion en chemin avec Guillaume Desanges qui est venu traverser en fait avec nous pendant une journée les deux expositions actuelles d'Ismaïl Barry. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une exposition qui est en quelque sorte le pendant de celle-ci qui s'appelle Sonde et qui est actuellement présentée aux églises à Chelles. Donc on a traversé avec Guillaume l'exposition à Chelles, qui est une exposition plutôt diurne sur la question, en tout cas plus directement liée à la question de la lumière, là où Sommeil est plutôt lié à quelque chose qui a à voir avec les potentialités de l'obscurité, on va dire. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour cette troisième discussion, donc, on accueille Simon Caillard, à gauche, là, qui vérifie son micro, un petit peu comme les vrais professionnels le font avant une performance. Et avec Simon, aujourd'hui, c'est aussi des fils de discussion qui, quelque part, un peu prennent de l'épaisseur au fil des échanges, mais en tout cas, il va s'agir de parler de la question de la distraction. Voilà, donc habituellement utilisée pour réprimander les élèves qui ne s'intéressent pas à là où ça se passe, c'est-à-dire là où l'action se déroule. L'exercice du jour est de s'intéresser à savoir là où ça se passe. Quand il s'agit d'art.
Donc c'est un bouquin que je suis en train d'écrire qui a pour sujet la distraction, en gros, pour dire simple. Le livre s'appelle une méthode de dispersion. C'est deux termes un peu antinomiques, c'est-à-dire que méthode, c'est plutôt tendance à, c'est plutôt la chose qu'on prévoit, la chose qui tend à structurer quelque chose et qu'on peut anticiper. Et dispersion, c'est plutôt un mot qui désigne plutôt les choses qui ont tendance à se défaire. Et voilà, c'est, ça brosse un peu la problématique. Et mais dans le bouquin, qui n'est pas parti de la distraction au début, mais qui est arrivé, parce que c'est un truc qui travaille depuis un moment, où le personnage du distrait était déjà présent dans un ancien livre que j'avais écrit, qui s'appelle « L'image dans le papier », qui était un livre sur, en gros, qui avait pour thème l'image latente, c'est-à-dire l'état d'une image avant qu'elle n'apparaisse, et qui était entièrement pétri de la procédure photographique et tout le vocabulaire technique de la photographie, à savoir l'image latente, donc l'obscurité, la révélation d'une image, le révélateur, la fixation, puisque l'instant de la fixation dans la photo est un moment déterminant, et qui justement rejoint après cette histoire de distraction qui consiste justement à ne pas fixer. Donc c'est une méthode, on pourrait appeler ça une méthode de non-fixation ou une méthode de non-saisie. Et les images qu'il y a ici sont aussi des images qui se dérobent en permanence, qui apparaissent, qui disparaissent. Et je pense que toute l'histoire de cette exposition, c'est raconter la Tunisie sans... C'est-à-dire un type comme Ismaïl qui a grandi là-bas, qui revient pour filmer et qui mystère fait tout pour bloquer les images, fait tout pour ne pas voir ce qu'il a sous les yeux. Et donc, on pourrait appeler ça une méthode de non-fixation aussi. Voilà. Mais dans le bouquin, donc je suis commencé à parler, le bouquin a démarré sur une pièce d'un pianiste qui s'appelle Joseph Matthias Auer, où c'est des morceaux dodécaphoniques, mais pas du tout comme on a l'habitude, c'est-à-dire des trucs comme ça, des trucs bizarres, à la Stockhausen ou je sais pas quoi, des trucs que je connais pas du tout, mais c'est des morceaux très simples avec juste une note, c'est une note après l'autre, et chaque note dans ces compositions, chaque note, et donc c'est, il y a un tempo comme ça, et sur chaque noir vous mettez une note. Donc, il ne peut pas faire plus simple. En fait, s'il avait pu ne pas faire un morceau sans rythme, il l'aurait fait. Mais comme ce n'était pas possible de ne pas avoir de rythme, il a pris ce rythme noir comme ça, par convention. Et ce qui fait que c'est un morceau où il arrive à ne pas faire de mélodie. Mais c'est hyper dur, en fait. Et où chaque note qui arrive contredit la suivante. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de, c'est des morceaux, il n'y a pas de tonalité d'ensemble. C'est pour ça que c'est dodécaphonique. Il n'y a pas, et donc il n'y a pas une humeur spéciale, il n'y a pas une, il y a, c'est une, la non-ambiance parfaite, quoi. Et donc c'est des morceaux d'une platitude absolue. Et en fait, même quand on fait des notes n'importe comment, enfin, généralement si vous faites de la dissonance. C'est toujours le diable ou des trucs un peu angoissants, tout ça. Mais lui, c'est pas angoissant, c'est juste proche de voilà, d'une espèce de désert, de trucs comme ça. Et en fait, un jour, c'était une période où j'ai aimé cette musique à une période où je détestais la musique. Alors que bon, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, je veux dire, c'est un truc qui m'a beaucoup occupé, et je trouvais que la musique, il y a trop, c'est une musique, c'est très puissant. Comment dire, il y a un livre, je dévie, hein, mais il y a un livre de Pascal Quignard que je n'ai pas lu, mais qui s'appelle La haine de la musique, et où il dit, voilà, qui lui est un musicien aussi, mais l'idée, c'est un peu que la musique est un truc très puissant qui vous emporte, qui charge d'affect les choses. Et que là, c'est la première fois que j'entendais une musique qui, et paradoxalement, on peut parfois ressentir dans la musique une sensation d'envahissement ou de, et même d'enfermement dans une émotion, je veux dire, qu'on n'a pas voulu. Et ça, il n'y a rien de mieux pour détester la musique que d'écouter, que le jour où votre voisin met super tramp à fond. Et là, vous savez ce que c'est que enfin, là, on peut éprouver ce que c'est que de détester une émotion que vous n'avez pas demandé, tout ça, qui vous arrive dessus, donc, et face à laquelle vous êtes obligé de faire face. Et, tout ça. Et là, dans ces morceaux-là, il y avait en apparence pas d'émotion et en même temps une infinité d'émotions possibles, parce qu'à chaque jonction entre les notes, il y avait une bribe d'émotion, un petit bribe d'affect, de trucs qui. Et qui disparaît tout de suite, qui est contredit, et voilà, et le morceau avance comme ça. Voilà. Et donc moi j'ai eu cette expérience de, donc j'ai écrit une lettre à un ami qui m'avait fait découvrir ça, je lui ai dit écoute merci. Et j'assimilais ça vraiment pour moi, j'assimilais la découverte de cette musique à une sensation d'éveil sensoriel, de trucs comme ça, à un moment où justement j'avais plus envie de. J'avais pas envie d'être embarrassé, ou peut-être je pouvais pas supporter de ressentir des émotions trop fortes, des trucs, peut-être des moments de fragilité en fait. Et cette musique-là, c'était vraiment une sorte de ressourcement, à partir de la platitude. Et alors le pire, c'est que ce type-là, qui a écrit ça au début du siècle, assimilait ses compositions au cosmos et tout ça. Alors bon, voilà. Et alors qu'ensuite le bouquin est parti, a pris comme personnage, enfin comme homme de paille, on pourrait dire, John Cage, pour une symphonie, un morceau qu'il a fait, qui est un morceau de silence, qui est le plus connu, hein, qui s'appelle 433. Je pense que tout le monde, enfin, je peux résumer le truc. C'est un morceau que moi j'ai découvert. je dis homme de paille, ou pour dire société écran, comme on dit une société écran, parce qu'en fait, le morceau, j'en ai parlé dans le bouquin, mais je me suis complètement gouré sur ce que c'était réellement, en fait. Après, j'ai lu des trucs. Mais en fait, j'avais juste un souvenir ancien quand j'étais à l'école et que mon professeur il m'avait montré une vidéo. Et j'étais parti sur ce souvenir-là. Donc, c'est, dès le début, c'est une erreur fertile, on pourrait dire, qui permet ensuite de parler d'autre chose. En fait, de trucs qui peut-être n'intéressaient pas John Cage, mais quand même, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu très bien s'intéresser à la distraction, des trucs comme ça. Et donc, il y a tous ces exemples qui sont pris dans l'art, la musique, la peinture, tout ça, la poésie. Et en fait, mais le but du bouquin, vraiment, là où j'en suis maintenant, c'est justement de prendre des exemples qui ne sont pas dans l'art. Parce que c'est ce que tu as, pour rebondir sur ce que tu disais, d'essayer de prendre mais dans des registres particuliers. Et donc, dans la lettre que j'ai écrite à Ismaël, il y a un exemple dans l'éducation d'une enseignante en école primaire qui raconte comment elle fait face au manque d'attention de ses élèves. Et qui c'est un tout petit paragraphe, elle décrit, et c'est très bien décrit. Et là, en ce moment, c'est peut-être des trucs comme ça qui m'intéresseraient. Mais voilà. Et après, je décrirai la pièce de John Cage.
Voilà, je voulais juste rebondir sur l'épisode de John Cage que tu vas décrire ensuite, peut-être pour donner peut-être une perspective un peu commune à cette question de distraction qu'on a aussi dans les discussions qu'on a. Moi, je dis souvent avec s'intéresser aux choses avec beaucoup de profondeur et une certaine distraction. C'est moi qui crée chez moi l'invention très régulière de choses que je crois exister et qui sont en fait des erreurs de... En fait, tu confonds plusieurs choses et tu crées une idée qui est assez excitante, mais en fait, qui n'existait pas. En fait, tu crois la raconter, mais en fait, tu l'inventes. Et effectivement, cette situation-là, c'est aussi la notion de la distraction. C'est aussi la question dans laquelle il y a une espèce de champ, de différents champs magnétiques du désir qui fait qu'on ne se focalise pas parce qu'il y a plusieurs choses qu'on atteint à la fois avec une seule idée, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose, mais en fait, on est attiré, je pense que c'est aussi une chose qui est liée à la relation, on est attiré par trouver quelque chose qui va pouvoir être mis en commun avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on essaye de trouver un exemple qui serait idéal et en fait, on l'invente. Et cette notion-là, donc, de la productivité de la distraction, c'est-à-dire de se rappeler intensément des choses, mais avec distraction, c'est-à-dire que du coup, on les confond. C'est un peu cette histoire-là aussi. On a discuté, juste pour faire le lien avec le travail avec Ismaël, on avait discuté d'une première recherche que tu avais faite autour de l'écran blanc, qui donc, en tout cas, à l'époque de ce travail-là, était plutôt encore des cartons blancs que tu mettais devant la caméra. Là, dans cette exposition-ci, on est plutôt avec des cartons noirs. Et il y avait ce carton blanc qui était à ce moment-là fixe, hein, qui était une manifestation suite à un assassinat en Tunisie. Et donc, on voyait défiler uniquement à la bordure de l'écran, en fait, une manifestation comme ça. Et un écran blanc fixe au milieu. Donc, finalement, on ne voyait pas l'événement que sur les bords. On avait parlé de cette notion-là de rater l'événement, la notion de rater l'événement. Et il m'était venu une histoire que je t'ai racontée aussi pour le livre, qui était... Parce que moi, ça, c'est une vraie histoire, mais du coup, j'en ai fait une version un peu alternative.
J'ai rien retrouvé là-dessus, d'ailleurs.
Non, mais il y a un bout dont je suis certain, le reste, j'en suis moins sûr. Ce dont je suis certain, c'est que c'est de la pratique de Magritte en peinture, qui a été particulière, parce que Magritte, c'est un peintre de chevalet. Et ce qui était assez particulier avec Magritte, c'est qu'en fait, bon, vous connaissez en fait son œuvre, donc cette dimension un peu surréaliste comme ça de son œuvre. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il peignait chez lui en présence de sa femme, et en fait, il se déplaçait de pièce en pièce avec son chevalet pour discuter avec sa femme quand il peignait. Et quoi qu'il peigne, en fait. Donc, il n'avait pas du tout un rapport avec l'événement qui se déroulait, mais un rapport d'une espèce d'affect de la relation. Et donc, c'est un peintre d'intérieur. Et c'est vrai que j'avais comparé la vidéo d'Ismaël, et c'est là que j'ai fait un espèce de raccourci productif, parce qu'effectivement, Magritte n'a vraiment pas fait ça. Mais je voyais bien Magritte installant sa toile blanche dans la rue pendant que la manifestation passe. Et donc, comme il prépare, il s'affaire à préparer son châssis, à mettre tout en place dans le cadre, et effectivement, il rate ce qui est derrière le cadre. Et c'est ce que donnait un peu à voir la proposition d'Ismaïl. L'hypothèse que j'en faisais tout de même, c'est que finalement, Magritte était vraiment quelqu'un d'intéressé par ce qui se passait au bord de l'art. Puisqu'en fait, il essayait de créer toujours une situation où il était plus important d'avoir un contexte dans ce qui se passait autour de la toile que de la toile. Mais quand on l'imagine à l'échelle, avec des grands châssis, ça occupe quand même tout son champ de vision. Donc peut-être l'hypothèse d'un vrai artiste distrait. C'était ça un peu le... Mais effectivement, après cette anecdote de Magritte descendant dans la rue avec son écran, ça, j'avoue que je l'ai pensé tellement fort qu'il se peut que je l'ai inventé.
J'ai découvert du coup un tableau qui m'a beaucoup plu de Magritte où il se représente, comme souvent, il se représente lui-même en train de peindre, où il représente un mec type en train de peindre. Donc c'est un mec comme ça, il a son chevalet, il regarde, il y a un œuf sur la table et il peint. Ah oui. Il peint avec la main, donc il y a le regard qui est. Il y a le regard comme ça qui est dirigé vers l'œuf, et sur la toile il y a un oiseau. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, cette sorte de haïku.
C'est quoi ?
Je crois que c'est clairvoyance, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, mais peut-être c'est pas ça, mais si c'est ça, tant mieux. Voilà. Mais c'est marrant de voilà, quand t'as dit produire la distraction, je pense que c'est pareil, on est un peu dans des trucs antinomiques, enfin parce que des distractions, d'habitude, on attribue plutôt ça à la passivité, consommation de masse, divertissement, tout ça. Et en fait, de dire que c'est un truc qui peut se travailler même involontairement, passivement. Moi, je dis mais passivité active, voilà le porter la distraction, ou même dans le bouquin, il parle du distrait. En fait, c'est le portrait du distrait en sentinelle, autre personnage clé du livre. Bon, voilà, sentinelle, c'est le guetteur, et donc le guetteur, c'est celui qui porte la dispersion autour de lui, qui fabrique, qui. C'est un système, en fait, quand on dit dispersion, c'est une forme de dispersion ou une forme de distraction. Donc c'est une forme, c'est une forme qui permet que les choses se fassent et se défassent en permanence. Voilà. Donc c'est intéressant de décrire, et donc du coup, de décrire la structure mentale ou perceptive du type distrait ou... Voilà, de la même manière qu'on peut décrire à quoi est confrontée la sentinelle quand elle fait le guet sur sa muraille et que devant il y a une espèce de glacis comme ça, il n'y a rien. Et en même temps, faut qu'elle tienne le coup, qu'elle attende en vue du danger imminent, possible ou probable, qui va commencer à se profiler à l'horizon. Et la sentinelle, il faut qu'elle annonce. Le moment où va survenir le danger, c'est-à-dire les signes avant-coureurs d'un événement, d'une chose, au plus tôt possible pour prévenir la ville derrière, c'est un rôle important, j'imagine pour se préparer, voilà. Donc c'est le truc de l'annonce, d'arriver à dire un truc au moment où la chose n'est pas vraiment là, mais voilà.
Il y a un petit radicule, moi, que je verserai aussi à la conversation, qui est qu'en fait, ce que j'ai appris par le philosophe Didier Debèze, c'est que en latin, donc le guet, comme ça, c'est speculi, et donc du coup, ça renvoie à la question de la spéculation. Il dit aussi, le guet, c'est la figure en fait qui sert à quelque chose lorsqu'elle disparaît. En fait, quand un guetteur devient guetteur, c'est-à-dire qu'il a vu, et donc quand il a vu, il n'est... ça marche quoi, il disparaît. Maintenant, il est plus on est guetteur jusqu'à l'instant où on, et du coup, si on voit le danger, là, tout est déclenché. Donc, il y a aussi une espèce de seuil comme ça de basculement. Et il dit aussi un peu ce que tu dis avec le, en revenant à la racine spéculi. Il dit, c'est celui qui doit essayer de voir se produire le futur avant qu'il devienne le présent, quoi. Ouais, donc, quelque chose qui doit se, et donc ça, c'est aussi une notion que je trouve intéressante.
Peut-être tu peux parler du programme.
Non, je suis en train de bavard, donc
j'écoute. Peut-être que tu peux parler de SETI, le programme de navette spatiale d'extra. C'est comment, Search for Intelligence, parce que c'est ça.
Ah bon? Non, mais vas-y, continue. Non, mais je me demandais si on inverse la proposition très très intéressante que tu viens de dire. Le distrait, il n'existe que quand il n'est pas concentré. Donc quand est-ce que lui il disparaît? Enfin, quand est-ce qu'il disparaît lui à son tour?
Il est pour les mêmes raisons, comme c'est un guetteur, le distrait, en fait, distrait, guetteur, interchanger les mots, je veux dire, c'est signifie exactement la même chose pour moi, enfin en tout cas la manière dont on décrit là. Et donc le distrait, il disparaît quand il met un truc au centre et qui nomme une chose, et quand il circonscrit un objet, qu'il met au centre et qu'il dit ben voilà, on va parler de ça, ben, il cesse d'être un distrait. Chose que tu fais pas là, enfin dans l'exposition par exemple. Ça va, ça vient. Les images. En fait, pour moi, l'expérience que j'ai eue vraiment de l'exposition là, c'est pas du tout. Alors ça, c'est un truc que j'ai décrit dans la lettre que j'ai adressée à Ismaël, qui s'appelle "Les images veillent autour de moi". Autre phrase qui pourrait aussi bien s'appliquer à la sentinelle comme au distrait, c'est-à-dire qui veille, donc voilà, autour de moi. C'est-à-dire que bah, c'est autant derrière, sur les côtés, voilà. Mais pourquoi je parlais de ça? Parce que l'expérience que j'ai eue de cette exposition, c'était pas du tout. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, hein, il y a des caches noires, enfin tout le monde l'a vu, mais bref.
Ça, c'est un beau lapsus, ça, quand même. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très beau.
En fait, donc il y a des caches noires qui révèlent, qui voilent, qui dévoilent les images. Et en fait, moi, vraiment, au début, avant que l'exposition existe et que on papotait avec Ismaël et tout, et je pensais que c'est au moment où ça allait s'ouvrir, que on allait voir un truc et que ça allait créer une sorte d'appétit pour ce qu'on allait voir. Et en fait, moi, c'est pas du tout ça que j'ai eu sensation en voyant le truc. C'est un peu la symétrique inversée, c'est-à-dire que c'est le moment où ça se ferme, où on se souvient de ce qu'on a vu et où on est plus dans la projection d'une sorte de monde virtuel, hein, que créent toujours les images. C'est on se projette dans l'image qu'on a devant et on s'oublie soi-même, comme au cinéma en fait. Et c'est l'inverse, c'est le moment où ça se ferme et où on est là, ici, dans le noir, enfin dans la pièce. On est en France, on n'est plus en Tunisie, et on se souvient de la Tunisie et on a ce qu'on a vu comme ça. Et donc c'est une voilà. Un truc où on est déjà dans des images mentales, pléonasmes, voilà, qui met en scène l'exposition pour moi, en fait. Alors, je ne sais plus pourquoi je parlais de la fermeture, le moment de la fermeture, du clapet, mais...
Oui. Mais tu parlais des images qui veillent autour de toi, c'est ça? Mais moi, en fait, j'ai une question que j'aimerais te poser par rapport à la lettre que tu m'as écrite. C'est qu'est-ce que tu entends par « je te laisse une lumière, tu éteindras ».
Ça, c'est pas de moi, c'est Claude Roy-Journoux, c'est un poète hyper bizarre, hyper étrange, qui est très connu d'une petite sphère. En fait, c'est le poète des poètes, en fait, et qui écrit des trucs. Où les trois quarts du bouquin, c'est absolument incompréhensible. Mais il y a des trucs, des trucs très lumineux comme ça. Et, et son lui, c'est l'expérience de la littéralité maximum, c'est-à-dire ou des phrases descriptives, mais qui renvoient pas, qui sont parfois issues, qui sont parfois tirées, je veux dire, de l'expérience commune. Ça, je veux dire, quand tu invites un ami à dormir, c'est un truc que tu dis aux gens chez toi, voilà. Et lui, ce qu'il décrit, quand il pose ça sur une page, c'est essayer de faire l'expérience de cette situation et de voir cette situation, de voir comment la situation se structure, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est c'est la question du reste. C'est-à-dire qu'on s'achemine vers l'obscurité et que la lueur dans la pénombre, c'est une lueur. C'est toujours ce qui reste dans un mouvement qui va vers l'obscurité. Et donc la lumière, c'est pour ça que comparer l'image à un filament, c'est la dernière lumière avant de disparaître. Et cette lumière-là, elle est précieuse, c'est la dernière dont on se souvient, et elle n'existe que parce qu'elle est environnée d'obscurité, évidemment. Et donc c'est un mouvement, ça décrit... Voilà. Puis il y a aussi, voilà, ça c'était. Mais c'est pour ça que pour moi, l'exposition là raconte plutôt, encore une fois, je reviens sur l'ouverture ou la fermeture, en mettant l'accent sur le moment de la fermeture du clapet et non pas de l'ouverture, cette exposition pour moi raconte plutôt la dernière image que la première, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, je pensais que c'était une exposition sur la première image, puisque d'où l'idée d'amorce, l'idée du suspens. Et en fait, il y a deux manières de voir. Il y a toujours c'est la première fois que j'ai vu cette chose-là comme pour la première fois. Mais on peut aussi dire j'ai vu cette chose-là comme si c'était la dernière fois que j'allais la voir. Et c'est deux manières de faire apparaître les choses. Et donc, pour moi, cette exposition, c'est quelqu'un qui essaye de retenir. De faire durer la dernière image, en fait, que la dernière image dure à l'infini. Et donc, c'est pour ça que, après, comme tu as vécu en Tunisie et que tu es parti de Tunisie, je me suis dit, c'est une bonne définition de l'exil, enfin, du type qui part, qui n'en finit pas de partir, en fait. Et que tu n'étais pas dans la situation d'un type qui découvre un pays pour la première fois, mais d'un type qui revient et qui. Ouais. Voilà, et qui revient, revenir, c'est toujours. Il y a dans la lettre, je lui dis, mais quand reviens-tu ? Quand reviens-tu, c'est.
Oui, oui. Non, mais ce que tu dis est vraiment hyper intéressant. Ce qui m'a paru aussi assez beau et que moi, je n'avais pas vu, c'est la question de cette espèce de voyage permis par le mouvement du clapet de papier qui va et vient. Et qui, dans ce mouvement, va également produire un saut dans l'espace, c'est-à-dire voilà, c'est ce rapport de capillarité, là, de contiguïté entre l'espace clos de Chiasma et l'espace autre, l'horizon, cet horizon-là que tu décris un tout petit peu, qui reste tout de même indéfini. C'est-à-dire, moi, à la limite. Ça me rappelle une expérience que j'ai eue avec quelques étudiants là, ces dernières semaines, où certains étudiants, quand je leur demandais d'essayer de décrire un tout petit peu, en fonction de leur regard, l'exposition, certains d'entre eux ont fait une chose étrange. Ils ont dessiné le plan de Chiasma de façon très lumineuse et le dehors de façon très sombre. Je leur dis, mais c'est étrange, pourquoi vous faites ça ? Ben, ils disent, mais parce qu'en fait, l'espace, on finit par le connaître, mais ce qui est derrière... Derrière les murs, cet espace fabulé là, que l'on entrevoit dans ce filament de lumière que tu décris, c'est lui qui reste sombre, en fait. C'est-à-dire, il y a cette inversion là, m'a paru très très belle, et je crois que c'est ce basculement permanent qui travaille. Je ne suis pas certain que ce soit la dernière image ni la première. C'est plutôt la mécanique, en fait, entre ces deux choses là qui me paraît importante. C'est-à-dire, ça peut à la fois être la première ou la dernière. Ou la dernière, la première. Donc,
La première, c'est quand tu arrives. La dernière, c'est quand tu pars. Hein.
Oui, peut-être. Peut-être, oui, tout à fait, oui.
En fait, c'est une exposition un peu
oui.
Mélancolique.
Bah, c'est ce que Olivier m'a dit quand on était en montage. Il m'a
en fait,
il
faudrait même dire nostalgique, nostalgique, mais c'est pas.
Tu as dit dépressif. Non, mais.
Je pense qu'il y a un lien qu'on peut peut-être aussi tisser pour avancer dans cette question de sommeil qu'on a évoquée, mais j'aimerais qu'on y revienne peut-être. C'est la question du. Quand tu dis voilà, le distrait, comment il. Tu peux dire comment il disparaît en tant que distrait, mais on peut dire comment il continue en tant que distrait aussi. On peut s'interroger comment le distrait peut persévérer dans sa distraction. Et ça, moi, c'est la question de l'état de songe. Je pense que l'exposition, elle a aussi à voir avec l'état de conscience, et qui est une conscience qui peut être, à une certaine mesure, assez aiguë, dans l'état de songe. C'est ce que j'appelle, en fait, le, avec profondeur, mes distractions. C'est-à-dire essayer de réfléchir aux choses, et c'est ce qui permet parfois de faire les assemblages les plus étonnants et particuliers, dans un état à la fois d'approfondissement, mais qui n'est pas un état de concentration. Et pour moi, la question du songe, et que Sommeil annonce dans l'exposition, c'est un peu cet état-là, c'est-à-dire à la fois très productif, mais sans jamais se focaliser, toujours dans un espèce de beaucoup de choses qui se passent, voilà. Et parce qu'on n'a pas le souci de la cohérence que nécessite
c'est
le
fait de focaliser. C'est dans la lettre, il y a une phrase qui dit « rappeler la mémoire au seuil de l'endormissement ». Et c'est ça, je te laisse une lumière, tu éteindras aussi. Mais c'est ce qui est beau dans ce truc, mais moi, je n'ai pas pensé dans ce vers, c'est que c'est aussi le truc de je te laisse ce moment-là pour toi, je me retire, je t'ai invité chez moi, mais je te laisse une lumière, tu éteindras, ça va être ton choix, et il y a un côté très accueillant. Enfin, ça, quand on parle de la situation, si on essaie de comprendre la situation qui est là-dedans, il y a je te laisse à toi-même, je te laisse ce moment-là pour toi, qui ne peut être que. Dont seulement toi peut. Tu as une forme de solitude aussi, tu as de deux personnes en présence l'une de l'autre, dont l'autre offre ce moment de solitude et donc ce moment de songe et peut-être la possibilité pour elle de se remémorer ce qu'ils ont vécu ensemble et tout ça. Et c'est ça qui est beau dans les vers de Claude-Roy Journoux, c'est une espèce de simplicité et qu'en fait, voilà, qui est hyper théâtralisé dans les livres. Excuse-moi, je fais juste dans les livres parce qu'il y a c'est des vers, il y en a 5 par page. Et donc, il met 7 ans pour écrire ses bouquins. Et il y a en quantité d'encre, je veux dire, il y a peut-être une feuille A4 remplie. Vous pouvez noircir en quantité d'encre et ça donne 7 ans de trucs. Mais lui, il met du blanc dedans quand même. Voilà. C'est pour ça qu'on peut lire les voilà.
Oui, oui.
C'était le songe. Le songe peut broder encore. J'ai un truc à dire sur le son.
Ouais, vas-y,
tu voulais dire un truc.
Non, non, mais sur autre chose. Moi. Non, mais je veux dire, en fait, ce que tu viens de dire là, je te laisse une lumière, tu éteindras. Bah, ça rejoint quelque chose qui m'a paru évidente quand on a fini l'exposition et que je n'avais pas vu avant. C'était l'idée, enfin pas l'idée, mais le fait que finalement l'exposition, elle a fini par construire un dispositif qui produit une forme de réceptacle, quoi. Le réceptacle de quelque chose que les autres vont activer ou qu'autre chose va activer. De la même façon que le travail, lui, a été vraiment activé par ces voix là que vous entendez. Et c'est eux qui finalement allument ou éteignent la lumière, quoi, quelque part. Et de la même façon que le spectateur, j'imagine, hein, qui parcourt l'exposition, lui va être dans cette posture de d'activateur potentiel de ce qui peut se jouer, quoi. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au songe ?
Le sommeil et la distraction, oui, c'est ce qu'a dit Olivier là sur. Le moment, je ne sais plus comment tu as décrit, le moment où on est. Comment tu as dit ça on est, où on ne cherche plus, où on est. Ouais, le moment où on s'endort, en fait. C'est vrai que c'est toujours intense, les moments avant de s'endormir, en fait. Il y a, enfin, pour pour les jours, on a l'occasion de vivre ce truc-là. C'est un truc hyper précieux parce que, effectivement, c'est là où on abandonne. Il y a plus de volonté de quoi que ce soit, de saisir quoi que ce soit. Et c'est là où les idées, les émotions prennent vachement de consistance. Alors, l'alternative, c'est soit je me réveille et j'écris tout ça, mais à ce moment-là, je fais insomnie, ou sinon, je me laisse guider. Voilà. Et c'est des moments hyper forts. Et on pourra parler d'une anecdote dans le bouquin, là, j'ai décrit, sur les psychanalystes qui s'endorment. Pas les patients, les psychanalystes. Et,
voilà. Non, mais c'est juste ce qui me semblait intéressant dans cette question-là du seuil, c'est que justement, elle va avoir une intensité, mais elle est impossible à saisir. Donc, c'est un moment important parce que vous savez comme moi que si on commence à se dire qu'on est en train de s'endormir, c'est foutu. En fait, on ne s'endort plus. En fait, il y a un espèce de truc très particulier, c'est qu'il y a un seuil qui est insaisissable. On ne peut pas s'endormir si on pense qu'on s'endort. Et donc, c'est un espèce de moment tout à fait particulier de nos vies où il faut réussir à générer le fait de ne pas penser à ce qui est en train de se passer. Donc, mais pourtant, on est engagé pleinement dans cette chose-là. Donc moi, je la trouvais assez importante de ce point de vue-là, d'un espèce de moment un peu indescriptible et un peu insaisissable, puisque dès lors qu'il est saisi, il ne peut pas se dérouler, et qu'il y a un enfer quand vous commencez à réfléchir, que vous vous endormez, parce que là, c'est vraiment dur de s'enlever l'idée. Je ne sais pas, ça arrive à tout le monde. Tu n'arrives plus à t'endormir parce que tu t'es mis à penser que tu t'endormais. Ouais. Et du coup, ce qui est un registre de productif que je trouve très, très particulier, assez...
Ne pas vouloir, quoi. Ouais.
Voilà. Et donc là, il peut y avoir cette espèce d'idée d'une intensité, mais qui n'est justement pas concentrée, puisqu'en fait, elle se passe dans un ensemble de bords et de seuils. Moi, je voulais juste revenir à une chose que je suis en train de... C'est une réponse que je dois faire à Ismaël depuis des semaines, donc à force, elle a peut-être avancé un peu plus particulièrement. L'exposition ici s'appelle « Sommeil », et je trouvais que ce qui était intéressant... on a parlé pas mal de manière de cette question de sommeil, de ce que l'écho que pouvait avoir l'exposition, et j'ai l'impression que le distrait, c'est celui qui parvient donc à ne pas être disponible. C'était ça un peu le truc sur lequel moi j'étais, sachant qu'on est une société où d'une économie de la disponibilité et non pas du travail. C'est-à-dire qu'en fait, un ensemble de choses nous appelle à être disponibles là. Alors, il y a les réseaux sociaux étant maintenant l'outil le plus radical dans cette demande de disponibilité. Quoi de neuf ? En ce moment, ça écrit ça, Facebook, ça écrit quoi de neuf ? Dès qu'on écrit un truc, ça écrit quoi de neuf ? Donc, il y a toujours une espèce de nouvelle chose neuve. Et ça, c'est intéressant. Mais aussi, il y a une espèce d'idée qu'en fait, la chose réclame énormément de disponibilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être... C'est des formes, en fait, d'économie capitaliste de la disponibilité. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de faire quelque chose d'autre que d'être disponible. Donc vous êtes une espèce d'audience de tout et n'importe quoi, mais vous êtes disponible. Et cette espèce de mesure de la disponibilité, il me semblait que donc du coup, tu avais parlé du sommeil comme quelque chose qui se réduisait en face de la question du travail, dans une discussion qu'on avait eue plus tôt, en disant oui, aujourd'hui, on n'a jamais aussi peu dormi aujourd'hui qu'aujourd'hui, que de nos jours, notre temps de sommeil s'est beaucoup réduit. Mon hypothèse, moi, était de dissocier totalement ça de la question du travail. Je pense qu'on a beaucoup plus travaillé à une époque qu'on travaille aujourd'hui. Par contre, on ne nous a jamais autant demandé d'être disponible potentiellement, ce qui est une autre forme de demande d'un système. Et il me semblait que la question du distrait, ce qu'il avait de révolutionnaire, le distrait, c'est qu'il n'était pas disponible. Et cette indisponibilité-là devenait, dans un contexte d'une économie de la disponibilité, un vrai acte avec quelque chose d'assez puissant. Et la question du sommeil n'était pas simplement une pratique de récupération, mais aussi une pratique de sortir d'un espace de disponibilité permanente. Et ça me semblait encore un peu plus fort que de le ramener à la question du travail. On en avait parlé, moi j'ai continué à réfléchir et je me dis, mais en fait, on est en train de pousser les gens à de moins en moins être au travail en réalité, pour être de plus en plus disponibles.
Oui, non, je comprends très bien. Mais moi, ce que j'aimerais bien peut-être voir, c'est est-ce qu'il y a une histoire de la distraction ? C'est-à-dire, comment étaient les distraits au Moyen-Âge, par exemple ?
Comment il guettait sur les murailles.
Oui, mais d'accord, mais quand tu travailles dans un travailleur dans les champs, comment ça se passe? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des traces de cette maladie dans l'histoire occidentale?
Il y a des très beaux.
Il faut voir l'histoire de l'art.
Il y a des très beaux passages d'un texte de Benjamin sur l'histoire du conteur, chose qui intéresserait, je pense, Olivier Marbeuf, où il raconte que le conte, qui est l'exercice de l'oralité, qui n'est pas du tout l'exercice écrit, se transmettait par le biais de l'artisanat. C'est-à-dire que les gens, le soir, on coud à la lumière de la chandelle et tout ça, et qu'il y avait un conteur qui racontait les histoires et que les gens s'imprégnaient de l'histoire en faisant autre chose. On leur racontait les trucs. Souvent le conte, c'est des trucs qu'on raconte plusieurs fois. Et au bout d'un moment, ils intégraient l'histoire, ils la mémorisaient, et puis ils pouvaient la raconter à leur tour.
Ça rappelle la radio, quoi.
Ouais. Mais donc, il y avait ce truc qui était lié à l'exercice manuel. Voilà.
Peut-être que vous avez des questions, on va peut-être ouvrir. Hein.
Moi, je ne vois pas très bien parce qu'on est dans le noir. N'hésitez pas si vous avez des.
Je me suis juste rappelé de quelque chose, d'un écriteau, enfin, j'ai lu ça quelque part, d'un écriteau sur la porte d'Henri Michaud, où il s'était écrit, j'ai lu ça quelque part, que ne dérangez pas le poète, il travaille.
Ça rappelle ton anecdote de je sais plus quelle qui se passe dans la Grèce antique là, tu m'as raconté là. Mais si avec les soldats romains et tout, vas-y raconte.
C'est le je sais pas quoi encore, mais c'est bien, je sais pas quoi encore en faire, quoi en faire hein. C'est le théorème Archimède, c'est la mort d'Archimède. Non, mais Archimède, donc, en fait, ça, c'était un peu pour brosser. En fait, après, c'est vrai, je me suis. Après, tu as annoncé le portrait de l'artiste en distrait, tout ça. Et là, c'est bien parce qu'on retombe dans des gros stéréotypes, productif quoi, enfin faut s'arranger pour les de manière du chercheur fou complètement à côté de la plaque tout ça et une fois j'étais dans une manif, il y a un type que je connaissais qui était sociologue qui me dit t'as pas l'heure, je fais oui, et il me dit ah, enfin un artiste qui a l'heure, oui, ce genre de truc. Et bref, Archimède donc qui était un grec qui se sont fait envahir par Rome et il était en train de tracer des figures dans le sable et il y avait eu des consignes qui avaient été données aux soldats romains de pas tuer Archimède parce que bon quand même respect voilà hein ouais aussi ouais, voilà et puis Archimède donc complètement donc un vrai distrait c'est-à-dire que la ville est envahie. Mais lui, il est en train de tracer des figures dans le sable. Donc, le type qui a la tête ailleurs, comme on dit, puisque c'est ça le distrait, tu parles de disponibilité, une définition du distrait banale, pas besoin de. C'est le type qui a la tête ailleurs, le type qui est dans la lune.
D'ailleurs, c'est important parce que quand on parle de cerveau,
c'est pas de cerveau. Oui. Oui, le type qui a le tailleur, le type et celui qui ne voit rien en particulier, celui qui ne voit rien en particulier. Enfin, moi, j'étais parti de ça. J'imaginais un type comme dans une discussion, puis ou quelqu'un qui marche dans la rue, par exemple, et il voit rien en particulier, mais le deuxième terme de l'équation, en fait, c'est s'il ne voit rien en particulier, ça veut dire qu'il voit tout en même temps. Alors, bon, il faut arriver à articuler les choses, mais moi, après, j'en étais à ce truc de tout en même temps. Et donc, Archimède, il est comme ça, voilà, et il y a un soldat arrive, et le soldat arrive, il le met en joue, comme ça, avec son glaive, et lui, fou, il dit touche pas à mes cercles, et le soldat veut dire qu'il s'est senti un peu insulté du fait que. Un type qui est par terre en train de dessiner dans du sable, lui dit touche pas à mes cercles. Il s'est peut-être pas senti reconnu à la mesure où il pensait l'être, et du coup, bah, il l'a trucidé, quoi. Donc c'est comme ça que Archimède est mort. Voilà. Mais moi j'aimais bien parce que il y avait vraiment la situation, enfin un peu le cas limite de la distraction, quoi. C'est-à-dire et donc ça dressait un portrait de là. Après, ce qui m'intéressait, c'est un troisième chapitre que j'arrive pas à écrire. C'est un peu de voir la place, parce que ça demande un peu. D'écrire la place, je sais pas si je vais le faire en fait ce chapitre, parce qu'on peut écrire d'autres choses, mais de voir un peu dans une société quelle place il occupe. Et là, on a un cas où vraiment.
Mais là, en t'entendant raconter cette histoire, je me dis que pour le soldat, Archimède est un distrait. Ouais. Mais pour Archimède, le soldat est distrait aussi.
Oui, parce qu'il n'a pas compris l'importance de.
Bah oui, parce qu'il voit ailleurs. Oui. Ouais. Donc ton truc, il est un peu. Enfin, je sais pas.
Mais ça dépend à quelle échelle de temps on se passe. Si on se passe à l'échelle de l'histoire de la science, évidemment, ça donne raison à Archimède. Mais si on se place sur l'histoire, voilà, c'est ou l'histoire, oui, des envahissements, des, je sais pas, ou même. Je pense que la population autour était plus concentrée à ce moment-là, plus rivée vers l'invasion que vers les possibles découvertes. Donc, il y a le truc du temps commun, c'est sûr, que le distrait, il n'est pas dans le temps commun. Et ça, donc, parce que ce qui fait une société, c'est quand même le temps commun.
Voilà. Parce que cette anecdote, j'ai beaucoup pensé cet été quand je filmais. Et quand j'avais ces rencontres avec les personnages, justement, avec les personnes qui venaient me parler et tout, qui manifestement, on retrouvait un peu cette histoire-là. Bon, c'est-à-dire que forcément, dès lors que tu filmes un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que tu filmes en montrant aussi que bah, tu filmes, mais en même temps, tu ne filmes pas trop, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps, tu obstrues l'acte. Évidemment, ça a attiré les personnes, ça a amené une forme de discussion. Personne ne m'a trucidé, mais j'avais beaucoup pensé à cette anecdote, c'est-à-dire que cette idée de produire un tout petit acte décalé de façon à attirer paradoxalement l'attention, quoi. Et
toi, quand tu filmais, par exemple, tu es en Tunisie, c'est un peu la révolution, mais toi, tu filmes avec un cache.
Oui, un peu ça.
Donc il y a un truc.
Bah, et paradoxalement, le fait de filmer avec un cache, parce que j'étais entouré de caméramans. C'est-à-dire, si tu filmes Manif, tu n'es pas le seul, hein. Je veux dire, il y en a plein. Mais c'est à moi que les gens venaient parler. Parce qu'ils me disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais pourquoi tu mets ce bout de papier, quoi? Et du coup, on commence à parler de bout de papier. Oui, bah, tiens, il n'est pas blanc, enfin, ce genre de choses. Et ça rejoignait un tout petit peu cette anecdote à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Le fait de faire un acte absurde, enfin pas absurde, il ne faut pas non plus exagérer, mais en tout cas un tout petit peu décalé, mais qui en même temps s'inscrit dans une sorte de trouble commun. Il y a une question.
Du coup, tu réponds à une interrogation, là, une question que je me posais quand Simon parlait donc de l'Archimède. Et que tu disais, mais finalement, voilà, l'un est distrait pour l'autre. Et je me demandais, est-ce qu'on peut être distrait ensemble, à deux? Ou est-ce que c'est toujours quelque chose, finalement, que l'on vit seul, pour soi, dans un moment. Et dans ce que tu dis là précisément sur le fait que ben, finalement les gens sont venus vers toi et justement se sont interrogés sur le dispositif, etc., ben, du coup il y a quelque chose de collectif qui à ce moment-là s'est tissé autour d'une forme de distraction. Mais enfin, si on peut parler de distraction, oui, là, à ce moment-là. Mais c'est vrai que je me pose cette question de la distraction partagée ensemble, parce que depuis le début, on parle de quelque chose que l'on vit pour soi.
Ça s'appelle un dialogue de sourds, en fait.
Ah oui.
Ouais.
Pourquoi c'est un dialogue de sourds ?
Ouais, c'est basé fondamentalement sur le malentendu, je pense. Et alors, c'est-à-dire, c'est quand l'autre croit de l'autre qu'il a mal entendu ce que lui a dit. Ouais, là, c'est une vraie situation de distraction. Et c'est bien ce que tu dis. C'est l'histoire que je voulais un peu raconter sur le psychanalyste. Une amie un jour est allée voir un psychanalyste. Elle m'a dit oh, putain, mon psy s'est endormi pendant que je parlais. Moi, je trouvais que c'était extrêmement incompétent de la part d'un docteur de ne pas écouter ce que dit son patient. Je dis, c'est un mauvais psychanalyste. Alors que tu as fait quoi ? Ben, je l'ai quitté. Bon, c'est bien. Et puis, bon, alors, je trouve que mon père, psychanalyste aussi, je lui ai raconté ça. Il me fait, bah ouais, tu sais, moi aussi. Et comme je dis, mon papa ne pouvait pas être un mauvais. Mauvais dans l'exercice de son travail, j'ai mis à considérer la chose avec un peu plus de philosophie de mauvaise foi, si tu veux, mais productive. Enfin, on va voir. Et alors, en fait, j'imaginais la situation du parce que le truc de la psychanalyse, ce truc qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui est important dans ce qu'on dit. Et tout le truc de l'accès à l'inconscient, c'est de savoir qu'est-ce qui dans ce qu'on dit, donc système d'association libre et tout ça, qu'est-ce qui va être important. Mais le psychanalyste non plus le sait pas. Et c'est pour ça qu'on allonge les patients sur le divan, c'est pour divaguer un peu. Et donc, en fait, la meilleure manière. Et donc, pourquoi les psychanalystes s'endorment ? C'est parce qu'eux, c'est ce qu'ils appellent. D'ailleurs, ils ont beaucoup théorisé cette histoire d'écoute flottante. Et donc, c'est parce qu'il doit avoir une écoute. Il ne peut pas présumer de ce que va dire le patient avant qu'il ne le dise. Et il ne peut pas présumer de l'importance dans ce qui est dit. Donc, il doit rester un peu. Rester un peu à distance. De la chose, et donc on a deux dormeurs en puissance dans les bonnes situations, on va dire, dans une parfaite symétrie. Et puis il y a ce truc de dire que si je parle à une oreille flottante, ça peut me permettre, ça peut m'aider à faire flotter mon discours, et donc ça peut me permettre d'écouter moi aussi. Voilà. Et je trouve que dans cette situation-là, mais le malentendu, c'est ce que je viens de dire au début, c'est qu'il y a un malentendu. Monsieur, je vous ai payé, vous ne m'écoutez pas, ça part d'un malentendu. Mais c'est-à-dire que si la personne qui est en face ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être important dans ce que je dis, ça peut me permettre moi aussi de ne pas se présupposer, et donc l'oreille accompagne ma parole, en fait. Et donc, en fonction du type d'oreille que vous avez, que la personne a en face, permet de déployer le discours. C'est ça, on dit un ami, c'est quelqu'un qui sait tendre l'oreille. Donc, si la personne... d'où l'histoire de la lettre, qui est une adresse. C'est-à-dire que c'est parce que Ismaël existe, vraiment, que moi, j'ai écrit une lettre, que ça m'a permis de dire des trucs que sans Ismaël, j'aurais pas pu écrire. Oui, parce que, voilà.
Je voulais peut-être ajouter quelque chose sur ces deux choses-là, la situation de la manifestation, peut-être pour resituer le distrait et puis la question du malentendu. D'abord, moi, pour moi, je pense que le malentendu, en fait, c'est la base même du contrat social. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de malentendu, on n'aurait pas de société, paradoxalement. C'est-à-dire que si on n'était pas tous en train d'interpréter une chose à notre manière et croire qu'on est d'accord, alors on ne pourrait vraiment pas être ensemble. Donc déjà, moi, je pense que la question du malentendu, c'est la nécessité de base même de la vie collective. Il faut qu'il y ait un certain niveau de malentendu Toutes les situations d'éclaircissement créent toujours des niveaux de conflit indépassables, en fait. Et ce qu'on appelle le dialogue social, par exemple, c'est le fait de toujours reparler des mêmes trucs, mais tu vois, qui est vraiment... et d'en reparler encore, et en général, d'en sortir avec un niveau de malentendu suffisant pour pouvoir continuer à chacun... parce que moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez important. Hein. Je pense que ces notions de... en voulant préciser absolument, en fait, par exemple, des règles, on construit des contextes qui sont extrêmement difficiles à vivre, en fait. Et donc, paradoxalement, la discussion doit quand même, en même temps, créer un peu de confusion qui permet de créer du consensus. C'est un peu, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça, pour moi, c'est aussi l'un des enjeux de la distraction. Donc, toujours intensément, mais avec distraction, c'est-à-dire s'intéresser aux choses, mais toujours en laissant la possibilité que chacun a interprété les choses un peu différemment. Donc aussi, cette notion d'allusion, elle est importante. Après, l'autre situation, mais qui a un peu à voir avec ça, c'est la situation du distrait qui filme la manifestation. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, là-dedans, qu'émerge l'idée d'une figure, qu'elle soit romantique, héroïque ou comique, de l'artiste comme figure distraite. Pour moi, ça n'est pas très spécifique aux artistes, en réalité. Et que même si le serait, ce ne serait pas très important. Ce qui est juste important, en fait, dans une situation comme celle de la manifestation, c'est qu'il y a deux perceptions du temps qui, si on arrive à rassembler deux expériences, on arrive à avoir quelque chose qui est très précieux. Il y a celle de l'événement, et donc il y a la manifestation qui a son mouvement propre, et celui qui va suivre, on avait parlé, l'axe de la manifestation, donc être partie prenante et être dans le mouvement, en fait, du présent. Et celui qui ne la suit pas, alors en mécanique quantique, on appelle ça donc le référent, c'est celui qui ne va pas bouger dans l'espace, et qui va donc voir qu'il y a un déplacement. Donc il va... Et en fait, on ne peut pas... être en rapport avec le monde en étant tout le temps en position de celui qui regarde le monde passer. On ne peut pas non plus être en rapport précis avec le monde en étant tout le temps celui qui est impliqué dans le monde en train de se passer. Et quelque part, l'enjeu, c'est justement la synthèse de cette double position, presque à la rigueur une espèce de nouvelle controverse ou un paradoxe onde-corpuscule, c'est-à-dire pouvoir être toujours à la fois dans les choses en train de se passer et en train de les regarder se passer. Et quelque part, le distrait donc, n'a qu'un bout en fait, de l'équation. Parce que le distrait, il souffre de ne pas être impliqué dans le mouvement qui se passe. Mmh. Et donc, il a quand même un réel manque. Il n'est pas non plus la figure qui va... Non, mais par contre, il apporte la deuxième partie de l'hypothèse, c'est-à-dire d'être celui qui guette et permet de voir qu'il y a mouvement. En fait. Une manifestation se déplace que quand on ne se déplace pas par rapport à elle. Sinon, elle ne se déplace pas. Et donc, je pense que Ismaïl, en filmant, en étant celui qui manque l'événement, ce qu'il fait, c'est qu'il ne participe pas au mouvement, à proprement parler, et dans les deux sens, en fait, il ne participe pas au mouvement, et à la fois, il est témoin du mouvement. Et donc, moi, je pense que dans Ismaïl, paradoxalement, dans ce rapport au raté, il y a une espèce d'intensité d'une forme de témoignage. Le témoignage qui n'est pas engagé, au sens qu'on pourrait parler de... comme dans un cinéma d'engagement, un petit peu comme Mevetkin ou d'autres, où on se dit il faut être dans le mouvement des choses pour pouvoir en témoigner. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans cette idée-là. Et pourtant, un désir que moi-même qui me traversait, mais je me dis mais si on est complètement dans le mouvement des choses, comment on peut être le témoin des choses dans lesquelles on est. Voilà.
C'est partie de la chose qui ne marchait pas.
En tout cas, oui, il y avait quelque chose qui me manquait en tout cas dans cette proposition-là, qui par ailleurs me séduisait, je veux dire.
Mais une incomplétude, comme tu dis.
Mais alors, ceux qui quittent le mouvement pour rejoindre le référent, j'en reviens aux autres, à ceux que tu as évoqués brièvement, parce que c'est très très important à mes yeux, puisque c'est quelque chose qui ne se perçoit pas forcément ici dans l'exposition. C'est donc ceux qui vont quitter le mouvement, ils suivent un mouvement et à un moment ils le quittent ou ils s'arrêtent ou ils font une pause, ils rejoignent donc le référent dont tu parles et que tu incarnes. Et il te questionne, il y a une curiosité, il y a quelque chose. Et alors c'est... Oui, oui, voilà, absolument. Et donc c'est leur place, leur rôle dans tout ce dont on parle, en fait, qui m'intéressait beaucoup, en fait. Voilà.
Oui. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Enfin, oui, non, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que si j'essaie de réfléchir à ce qui a été dit, C'est vrai qu'il y a une sorte de double mouvement dans l'exposition, c'est-à-dire le fait, dans la salle sombre, admettons, appelons ça comme ça, le fait d'être dans l'observation de quelque chose qui se déroule à l'extérieur, donc être le référent, c'est ça ? Et ensuite, on se trouve dans la salle lumineuse, j'ai envie de dire, où là, on est à l'écoute de personnes qui ont assisté à l'expérience, qui ont assisté, eux, qui voient de l'extérieur l'endroit dans lequel on est, nous, et dans le mystère dans lequel on est plongé. C'est un peu ça, le double mouvement. C'est-à-dire construire l'exposition autour d'une sorte de mystère, d'une ombre, hein, en gros, c'est-à-dire vraiment ne pas trop savoir ce qui est en train de se dérouler, mis à part le fait que des lumières apparaissent, des personnages apparaissent furtivement, et produire dans l'espace de l'exposition une sorte de développement jusqu'à ce foyer là autour duquel on est assis autour de l'écran et à l'écoute de ces personnages qui eux ont assisté à l'expérience et qui décrivent en gros le contexte, l'extérieur de ce, enfin qui décrivent finalement le mystère dans lequel on est plongé, en gros, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ce que tu es en train de dire, mais en tout cas, je suis en train de... Oui, tout à fait. Et du coup, ensuite, en construisant l'exposition, je me suis rendu compte qu'en fait, ces personnes qui décrivent le travail, qui parlent de la caméra et qui ensuite parlent de moi également, donc il y a une sorte de relation qui s'instaure, finissent également par parler de l'exposition elle-même, c'est-à-dire que en parlant de la perception, de la nuance de la perception, du point de vue, du contexte, de ce que l'on voit, de ce que l'on ne voit pas, de l'absurdité d'un acte, enfin bref, de plein de choses, ils finissent à distance, c'est-à-dire de l'autre côté de la feuille, j'ai envie de dire, de l'autre côté. Il y a 4 mois de cela, en gros, ils finissent par parler de l'expérience perceptive que le spectateur de l'exposition a aussi. Et c'est vraiment cet élément-là qui a semblé intéressant pour moi. C'est à ce moment-là que l'exposition s'est construite. Parce que, pour être très franc, ça a été compliqué. C'est-à-dire, j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas trop comment construire tout ça, jusqu'à ce que ce basculement s'opère et que finalement, je comprenne que la solution, entre guillemets, arriver par ces voies, arriver à travers, aller filtrer par ces voies qui vont également guider le spectateur aussi. Guider le spectateur dans ce qui aurait été un trop, trop grand mystère, quelque chose d'abscon, quoi. Quelque chose de tellement, totalement abscon et de très, très loin, quoi. Trop loin, trop, trop sombre.
Comme on disait, juste pour dire, c'est là que pour moi ils font la synthèse des deux positions que j'écrivais juste avant. Eux, ils sont justement l'espèce de synthèse, quoi. Et c'est ça que je trouve très intéressant.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois à l'extérieur et dedans, en gros. Hein. C'est vraiment ça. Et ils sont à l'extérieur de la boîte dans laquelle on est, mais dans l'événement que l'on voit, enfin dans les deux. Oui, c'est vrai. Et la question de l'intercesseur, c'est-à-dire du passeur, de cette parole qui va activer l'exposition, mais à distance, a été très importante pour moi. Et le fait que aussi des personnes, des passants lambda, finissent par parler du travail, par parler d'art aussi, à leur manière. Hein. Le policier finit par décrire un travail artistique, en gros, hein, a été aussi extrêmement importante pour moi. Quoi. Catherine ?
Oui, moi je voudrais... revenir sur la question de ta position de distrait quand tu as filmé en Tunisie, quand tu as filmé toutes ces marches, toutes ces choses qui étaient en dehors de la cellule, du mouvement, des printemps arabes. Je trouve que tu installes aussi le spectateur un petit peu comme, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi j'imagine que tu l'as vécu un peu comme ça, tu es arrivé, tu n'étais pas là pendant les printemps arabes, tu vas participer à ce mouvement. Donc toi, tu t'es placé comme ça et tu t'es placé dans une sorte de distraction tu as laissé venir les gens s'approcher. Et est-ce que là, tu n'étais pas en position, comme moi, je me sens aujourd'hui par rapport au travail que tu présentes, également de non-voyance et de non-voyance, quoi. C'est ces deux termes que j'aimerais bien recoller avec...
Alors, non-voyance
et malentendance.
Malentendance.
Parce que quelque part, tout ça, tu nous empêches de voir, t'as empêché de voir. On entend, mais on perçoit des choses avant d'identifier vraiment les voix. Mmh. Et tout ça, je trouve que par rapport à la distraction, ça rentre complètement dans un,
oui,
dans un cercle et dans un...
Oui, peut-être. D'accord. Enfin. Première remarque, je ne me considère pas comme distrait dans le travail. C'est-à-dire, là, on en parle parce que Simon... mais moi, je ne me vois pas comme ça. Et deuxièmement, moi, en fait, ce qui m'a paru important dans ce travail-ci, c'était le fait de parler, d'essayer de construire un projet artistique, de filmer quelque chose d'infilmable, à mon sens. C'est-à-dire que, d'une part, je trouve que ces événements que tu décris ont été tellement filmés qu'ils ont été épuisés. C'est-à-dire, moi, il y a un effet d'épuisement par par la surcharge, par la surmédiatisation qui, moi, m'a beaucoup dérangé. Et c'est aussi une forme de réaction par rapport à ça, en tout cas. C'est-à-dire, comment être au cœur et être au plus près de quelque chose qui, moi, me tient à cœur, tout en fabriquant un dispositif qui crée un courant d'air, en gros, donc qui laisse se dilater quelque chose, tout en accueillant plein d'indices de cette chose, quoi. Et donc, finalement, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'une des meilleures réponses, hein. Franchement, hein. C'est-à-dire qu'on est au cœur de quelque chose, on est au plus près de la Tunisie, admettons, disons-le. Ce motif, cette figure qui, pour moi, est extrêmement chère, mais que, très franchement, hein, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, il m'est impossible de filmer ce motif. Impossible. C'est impossible, quoi. Je ne peux le faire qu'en passant par le détour d'autres choses. Et le vent a été cette chose, ces personnes rencontrées, qui d'ailleurs sont beaucoup plus légitimes que moi, quelque part, pour poser quelque chose là-dessus. C'est comme ça qu'en fait, je les ai accueillis dans le dispositif, quoi. En fait, ils se sont présentés d'eux-mêmes, je ne les ai pas accueillis, hein. Ils sont imposés, dans le sens où, étant donné qu'ils venaient et qu'ils me parlaient, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'ils disaient était d'une telle poésie, d'une telle force politique, d'une telle force, enfin, plein de choses, que c'était à eux, en fait, d'activer le travail, tu vois. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le voir, ça. En fait, si on parle de distraction, en fait, ce qui est très étonnant dans ce travail, c'est que l'élément essentiel du travail m'est paru évident tout à la fin. Ce qui m'était le plus proche, c'est ce que j'ai vu en dernier.
À la fois, je pense que c'est très important, parce que du coup, ça pointe aussi un peu, je pense, que ce que Mathieu tentait de... le chemin qu'il nous proposait aussi, et qui s'est devenu de plus en plus déterminant, même... avec le temps de l'exposition, c'est qu'il y a aussi quelque chose de quand même de particulier, peut-être par rapport à la question du statut de l'artiste dans ces expositions-là, c'est qu'il y a quand même une délégation. On en a parlé, Guy m'en a parlé. On en a parlé comme, je dirais, une continuité des délégations que tu as en ton travail à des mouvements physiques, chimiques. Mais moi, je peux pas. À la fois, je trouve ça très séduisant de se dire une énième délégation, sauf que quand elle passe, quand c'est une délégation à des personnes, de personne en personne, elle déplace même le statut de qui fait les choses. Et là, effectivement, quelque chose qui est très fort qui se passe, qui est d'autant moins de mettre celui qui va être artiste au centre, que de là aboutir à un endroit où il est assez difficile au demeurant de définir qui est l'auteur de ce qu'on voit. Et que là, justement, quelque part, par rapport à cette question même de la possibilité de conjuguer deux mouvements, le mouvement de celui qui a choisi d'être celui qui observe et qui essaye de regarder les événements et de celui qui y participe, se conjugue à partir du moment où aucune des positions est considérée plus légitime que l'autre ou plus intéressante que l'autre. Et donc, vont être effectivement créer une forme de fragilité aussi de chacune d'elles, accepter qu'il y a un moment donné où ça devient un petit peu limite, mais y compris, mais limite dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que même dans le dispositif, les gens disent, en gros, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? C'est quand même pas grand-chose, quoi. Donc c'est le vent qui soulève ton truc. Mais ce moment-là, en fait, qui se construit, c'est la possibilité justement que la position même limite de celui qui fait l'acte est mise en partage avec la position... avec une position de celui qui est aussi de l'autre côté de la caméra, au sens de créer effectivement une tierce figure qui est pour moi, qui emporte tout, parce que par exemple, pour aller plus loin, une exposition comme celle-ci n'a pas besoin de gens qui font la médiation. C'est-à-dire que tout est emporté, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, y compris une prise en charge de ce qui traditionnellement est censé être une fonction de gens qui accompagnent l'art, donc la nôtre, parce que c'est déjà médié. En fait, tout ce qui est nécessaire d'être dit et de manière la plus intéressante possible est déjà dit de manière difficilement dépassable. Donc, quelque part, il y a une espèce d'objet qui prend son autonomie en éliminant toutes les figures classiques de l'art, quoi, de celui qui fait, de celui qui monte, de celui qui... Et donc ça, moi, de ce point de vue-là, c'était aussi très beau que ce soit une apparition un peu finale, quoi. C'est pas non plus une... Encore une fois, et là où il y a distraction, c'est que encore une fois, c'est des situations qui sont puissantes, mais qui ne peuvent pas relever d'un désir. Bon, je l'avais parlé avec cette question aussi de la bienveillance comme fondatrice d'un espace d'art, à mes yeux, c'est cette question paradoxale de la bienveillance qui ne peut être désirée. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose puisse se produire, mais à aucun moment elle ne repose sur quelque chose qui peut être désiré. D'où la difficulté même, quand on organise les conditions même de l'art, de pouvoir indiquer ce qu'on entend, d'où la question du malentendu, quand on voudrait que les choses soient d'une certaine manière, là c'est ma proposition, essayer de trouver toutes les manières de dire « il faudrait que », sans pouvoir d'une quelconque manière d'être beaucoup plus précis que de créer des vagues conditions, que des choses se passent, mais en fait, tu ne peux pas dire oui, mais en ce cas-là, il faut faire ça comme ça et comme ça, et vous allez voir, ça va se passer. En fait, il y a quelque chose qui se fait et qui doit aussi opérer parce qu'on a ouvert des conditions pour que quelque chose soit débordé. C'est-à-dire que notre propre désir soit débordé par quelque chose qui, quelque part, le comble et le dépasse. Et de ce point de vue-là, l'exposition, elle est, je trouve, voilà, précieuse, parce qu'elle donne plus que ce qui est attendu, ce qu'on ne peut pas attendre, une chose de cette forme-là. Quoi, voilà.
J'ai vu l'autre jour l'entretien de Jean Houry, qu'Aurore m'a passé. Il parle de l'ambiance dans la... Il dit, ben, je ne sais pas ce que c'est une ambiance, mais ça me fait penser à ce que tu dis sur la bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a voilà. Et que cette attention à l'ambiance fait que les petits détails peuvent exister. Voilà, des choses comme ça.
Il m'est arrivé quelque chose d'étrange là. C'est que quand tu parlais, je commençais à penser à plein de choses. J'ai perdu le fil. Il faut que je réécoute la radio. Enfin. Y a-t-il des questions ? Parce que vos questions sont vraiment activatrices. Mais je vois rien parce que.
Moi, j'aurais éventuellement une question, c'est-à-dire que la figure du distrait. Enfin, on parlait de l'histoire du distrait à travers les âges. Où est-ce qu'on pouvait le trouver éventuellement dans l'histoire de l'art ? Un répondant qui est la figure du flâneur. Et donc Walter Benjamin a été évoqué tout à l'heure par rapport à ce qu'il dit sur le conte, mais il y a aussi cette espèce de relecture qu'il fait de l'œuvre de Baudelaire en mettant en exergue ce personnage qui est celui du flâneur dans un rapport au déplacement qui se situe dans un certain contexte, qui est celui du développement de la ville comme spectacle, mais spectacle à finalité commerciale. Avec justement l'apparition des passages qui sont vraiment une autre cartographie de la ville, d'autres modes de circulation, et qui sont intimement liés au développement de la sphère marchande. Donc quand on parlait tout à l'heure de la distraction comme figure de résistance à un système qui demande à la disponibilité, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment un parallèle ou un lien par rapport à cette figure du flâneur qui ne sait pas où il va par rapport au distrait ou qui ne sait pas, enfin, ou qui regarde autre chose. Enfin voilà, c'est ces deux liens, dans le lien entre ces deux figures dans une situation d'environnement qui est dominé par le commerce.
C'est vrai que le flâneur, elle est ambiguë. C'est une figure ambiguë, enfin, parce que c'est celui, c'est aussi celui qui jouit de tous ces petits spectacles et celui qui en fait sa maison. Enfin, c'est celui qui a du, en fait, oui, c'est celui qui a du temps parce que il est, c'est un petit, c'est un aristocrate déclassé ou c'est un ouais, c'est un. Qui vit de l'héritage de sa grand-mère et qui a un vieux château en ruine et une robe de chambre élimée et qui boit du thé, qui mange des biscuits et qui se promène dans la rue et qui peut se permettre de ne pas produire et de pas être un ouvrier.
Mais de la même façon que la figure du...
Je ne sais pas s'il faut le prendre... Oh oui, là ils s'en est pris une grosse couche là, mais c'est bien. En tout cas, il faut savoir si on le resitue à l'époque même où le site Benjamin, ou si on repense, par exemple, moi je prends un exemple de flâneur qui prend complètement à contre-pied par exemple ta description. Ça va être les personnes qui vont vivre de différentes, comment dire, ressources sociales. Minimal, non mais attends, juste l'exemple par exemple de l'hôtel social. Il y a des gens en fait qui peuvent avoir grâce à un niveau d'aide extrêmement, comment dire, faible mais juste comme ça très très minimum, avoir accès à des chambres à la journée. Et donc moi il se trouve que voilà, j'ai travaillé à une époque avec des personnes comme ça qui étaient dans des situations, comment dire, avec des papiers ou sans papiers, des gens qui étaient plutôt immigrés ou qui ne l'étaient pas. Mais ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils avaient ce petit filet, souvent qui était lié à des soutiens associatifs, qui leur permettait d'avoir une chambre, comment dire, à la journée. Et ce qu'ils avaient en commun, ils avaient à peine de quoi manger dans la journée, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils devaient occuper une journée parce qu'ils ne pouvaient pas être dans la chambre, en fait. La chambre, ils pouvaient y être, et c'est souvent le cas, uniquement le soir pour dormir. Et donc c'était des gens qui devaient occuper en fait l'espace de la journée, et notamment l'occupation commune. Et moi je m'y étais intéressé particulièrement à cette époque-là, parce qu'on a fait un livre dessus. Ils marchaient dans la ville, mais marchaient dans la ville pour passer le temps qui te mène à fait de pouvoir retrouver ta chambre le soir. Et qui étaient donc des voilà, moi je me suis intéressé à ça. On a fait des itinéraires, essayé de comprendre. Et en fait c'était la difficulté, c'est que pour que le temps passe, et ça c'était un truc que j'avais retenu cette expérience-là, un peu plus vite par rapport à l'ennui, etc. Il s'agissait de faire des itinéraires qui étaient le moins connus possible pour que le temps passe plus vite, parce que plus on fait de choses connues, plus finalement la mesure de l'itinéraire mesure le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on met une heure à faire le tour d'aller jusqu'à... Mais si on va vraiment à un endroit qu'on ne connaît pas, on perd un peu le sens du temps. Ils expliquaient que des fois, ils disent « Ah, déjà 6 heures, dans une heure, je peux rentrer à ma chambre. » Et donc la journée était faite. Et je trouvais ça, non mais je trouvais ça vraiment, moi c'est quelque chose qui est vraiment pour moi hyper important, parce qu'en fait par ce biais-là, j'ai découvert par des associations qui suivent ce type de catégorie de personnes que c'est extrêmement répandu, que des gens en fait font des trajets dans la ville pour occuper leur journée parce qu'en fait ils ont une possibilité à une extrémité, à une fin de journée, mais que l'activité, donc, alors c'est pas le flâneur benjaminien, ce qu'on n'est plus à l'époque, à la même époque, on a quelque chose d'autre, mais quand même cette nécessité donc d'une forme de distraction, puisqu'en fait ils expliquaient donc généralement qu'ils cherchaient à faire des choses tout le temps différentes pour que le temps passe plus rapidement, pour pouvoir revenir à leur point de départ, donc, et sans se perdre, parce qu'il y a pas mal de gens qui notamment parmi eux étaient complètement illettrés et donc avait nécessité d'avoir quelques repères dans la ville pour pas vraiment, avec un risque réel de se perdre, c'est-à-dire vraiment le truc où si tu peux pas lire les panneaux, donc si t'as pas retrouvé quelques repères principaux, tu peux te perdre, mais à la fois en étant quand même au seuil de se perdre, pour que le temps, moi qui suis quelqu'un qui n'ai aucun sens de l'orientation pour une raison que j'ignore, je suis quelqu'un de très concentré dans ce que je fais, mais j'ai aucun sens de l'orientation, ce qui me permet d'avoir un rapport, par exemple, à la ville assez particulier. Quand vous n'avez pas de sens d'orientation, soit vous prenez tout le temps le même chemin pour faire tout le temps la même chose. Et donc, c'est assez... soit vous ne le prenez pas, et donc, quelque part, vous mettez toujours beaucoup plus de temps que la moyenne des gens à aller d'un point à un autre. Mais ce qui est quand même très productif, parce que du coup, on va découvrir... Et j'aimais bien l'idée, en tout cas, que des gens, en tant que flâneurs, pouvaient être aussi très précaires dans la flânerie, pas simplement le...
J'ai
puis j'ai pas, c'était pas à charge. Hein,
Désolé. Hein. Non, mais je voulais revenir justement du coup sur le partage, parce que je me demande si ces personnes dont tu parles, ces trajets, elles le faisaient seules ou quelquefois ensemble ou à deux ou à trois. Je reviens toujours à la même question de quelque chose qui peut se partager à deux ou à trois ou bon. Et parce que moi, je me suis occupé d'une personne qui était dans un CMP, qui venait le matin au petit-déjeuner pour partir dans un centre de médico-psy, qui partageait le petit-déj avec les autres patients sur place, et qui ensuite, tout au long de la journée, s'amusait, ou ne s'amusait pas d'ailleurs, hein, mais à marcher, en tout cas, et à explorer des zones aussi délaissées, des friches. Et une fois, il m'a dit, j'ai traversé une friche, donc avec des herbes très hautes, je l'ai traversé, donc j'ai été le premier à tracer un chemin sur cette friche. Et évidemment, le lendemain ou dans les jours à venir, si personne d'autre n'allait sur mes pas et traçait ce chemin derrière moi, évidemment, la friche redeviendra friche et ce chemin disparaîtra. Mais à un moment, j'ai créé un chemin qui était le mien et qui a disparu. J'ai trouvé cette image magnifique, puisque c'est quelqu'un qui, au sein d'une ville, a trouvé un espace interstitiel, comme il n'y en a plus beaucoup hein, maintenant, ces petites friches, et qui a décidé de la traverser, à créer un chemin qui lui appartenait. Et donc, cette idée d'avoir en tête que s'il l'avait partagé, si d'autres avaient suivi derrière, le chemin aurait peut-être duré. Et donc, je me demandais, et je reviens à cette question, si là, en l'occurrence, ces personnes-là étaient solitaires, puisqu'on parle du flâneur solitaire, seul, ou si c'est une expérience aussi qui s'est partagée.
Dans ce cas précis, parce que là, moi je pensais à un cas très précis où c'est des gens qui sont vraiment aussi dans une situation souvent de solitude. Cependant, sans partager en fait l'itinéraire, ils avaient des points de repère qui étaient communs et qui étaient des points de repère. Microéconomique ou un endroit où ils savent qu'ils peuvent manger pour pas cher, un endroit où ils savent. Donc il y avait quand même des repères dans la ville, une espèce de cartographie de la ville dessinée avec là on peut récupérer ça, là on peut avoir ça, là. Et donc souvent des gens qui connaissaient de Paris, 5 points assez étonnants, des points pas très significatifs pour. Pas tous les uns à côté des autres, d'ailleurs ça faisait vraiment des cartographies, mais avec des points de recouvrement, ils savaient où on pouvait manger pour. Avoir une soupe pour pas cher le midi. Là, c'est vraiment des gens qui vivaient avec, je crois qu'ils avaient 2 euros la journée. C'est vraiment des situations complètement hallucinantes. Hein. Dans la ville d'aujourd'hui, où tout coûte quelque chose, etc., donc ils savaient le prix de toutes les choses, et avec un rapport juste de repérer. Mais moi, ce qui me semblait intéressant, c'est qu'aussi, ils se disaient, l'une des problématiques, c'est que la journée passe, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose que moi, qui m'avait... Je trouvais intéressant là-dedans, pour revenir à ce dont on discute, c'est la notion d'informer quelqu'un, et non pas au sens comme ça, société de la communication, mais dans un sens beaucoup plus fruste. Ça t'informe de quelque chose qui. Une situation qui informe de. Je trouve que, quelque part, le travail d'Ismaïl pour sommeil informe de quelque chose, au sens qu'on apporte. Un élément à une situation pour la comprendre un peu plus autrement, mais encore une fois le terme d'informer il faut vraiment le prendre dans son rapport de racine quoi, mais pas dans ce que ça veut dire aujourd'hui, mais ça peut aussi jouer sur la concomitance entre l'information qui va être celle de l'événement, le printemps arabe, la communication de masse, et d'informer d'une situation de manière beaucoup plus ténue, c'est-à-dire tu la renseignes, tu la. Et ça, moi, je trouve qu'aussi pareil, se tient deux niveaux. Moi, en tout cas, dans ces parcours de gens dans la ville de Paris, de manière très. Voilà, dans des conditions très, très matériellement très, très précaires, m'a informé, non pas juste de leur. M'a informé d'une dimension possible de la ville, qui est parfaitement invisible pour qui est actif. Et il décrivait d'ailleurs très clairement les actifs, c'est le flot du métro, tu sais, on est les gens qui sont décidés, qui vont d'un point à un autre décider. Donc, comme des espèces de lignes, et puis eux. On est un peu dans des lignes, quoi. Tu vois, eux, ils sont dans quelque chose qui des lignes d'air dans la ville, et qui avait après les gens qui savent où ils vont et qui sont décidés à aller d'un point. Et ça, c'était assez. Moi, ça m'informait de l'existence d'un autre possible de la ville, de manière et qui est impossible très de survie, qui n'est pas justement le flâneur qui n'a pas d'enjeu de vie. Ils ont des vrais enjeux de vie qui sont quand même beaucoup plus tendus que ceux de personnes qui ont d'autres types de ressources. Donc, on est à la fois tendu et à la fois flottant, je ne sais pas comment dire. Mais il y a une.
Pardon, là où ce que tu dis rejoint ce que disait Simon, c'est qu'il y a, il y a quand même quelque chose, il y a un conditionnement social qui compte, c'est-à-dire que le flâneur de Simon, il peut jouir de son temps. Il y a une jouissance du temps qui n'y a pas dans le cas de figure que tu décris.
Je ne sais pas, j'en jugerai pas, je ne sais pas exactement. Peut-être
enfin,
que...
Comme tu le décris, en tout cas, on ne voit pas la jouissance d'un temps libre.
Oui, y a une... mais effectivement, mais à la fois, il décrivait les actifs comme des gens qui font des traits dans la ville. Tu vas de là à là, tu vas de là à là. Et donc, eux, ils étaient dans un espèce d'état flottant qui était décrit de manière... Moi, je pense que surtout, je pense qu'à la manière de charger d'affect et de positivité appartient aussi à des catégories sociales. C'est-à-dire que je pense que la beauté du chant, ce n'est pas forcément le paysan qui va la raconter.
Mais oui.
Tu vois, le geste, il va se dire, ouais, non, mais tout, ça va, le geste, maintenant que les machines le font, c'est bon. Donc,
c'est pour ça, moi, que je réagissais un peu mal au départ quand Simon a dit ça, parce que je me dis que la flânerie, mais après, je suis revenue là-dessus. Je pense que c'est plus la distraction qui est une question d'être au monde, vraiment. Et que ça appartient à aucune catégorie sociale. Peut-être la flânerie davantage
que la distraction. Enfin, mais je ne sais pas. C'est pas la même chose, quoi, du tout, en fait.
Oui, non, mais... Oui, c'est des trucs que j'essaie de me remémorer un peu.
Non, mais le flâneur, non, mais en fait, c'est que le flâneur, on l'a vachement. Moi, j'ai la première fois qu'on en a parlé, j'étais au Beaux-Arts, tout ça, et il y avait un côté hyper sympa. Le flâneur, c'était la figure parfaite, c'était le mec, personne qui était dans l'errance, et en fait, donc contestataire et tout, mais contestataire parce qu'à une époque. Le livre de Benjamin, c'est Baudelaire, un poète à l'apogée du capitalisme. Donc c'est le flâneur en regard du prolétaire, quoi. Faut le voir. Le flâneur, c'est celui qui ne se fait pas prolétariser, qui est pas dans l'économie de la production, qui est dans l'économie de la perte. Et pour autant, c'est celui qui, bon là, on est au 19e siècle, hein, je suis désolé, mais et donc, quand j'ai lu Benjamin, je me suis rendu compte que même lui, il avait une vision un peu plus ambiguë, pas ambiguë, mais un peu plus nuancée de cette figure-là, qui est un peu ridicule aussi. Le flâneur, c'est le dandy, quoi. Et il y avait un jeu au 19e siècle, dans les passages, où il y avait un jeu que les flâneurs s'amusaient à faire balader des tortues dans les passages, justement, pour... Tortue, donc c'est hyper lent, ça retarde tout le monde. Dans les passages, je voulais justement les gens, comme tu disais, qui ont des lignes droites. Et c'était un jeu comme ça qui servait à faire perdre du temps. Et donc le flâneur, c'est aussi celui qui le décrit comme une sorte d'esthète un peu qui est dans les passages et qui a le temps de jouir la marchandise aussi. Voilà. Mais c'était juste pour dire ça, mais qui brosse après, qui brosse un portrait, qui brosse des tableaux, quoi. Donc, mais sinon, c'est vrai qu'en t'écoutant, Mathieu, je me disais, c'est vrai qu'une communauté de distraits, c'est vrai que ça pourrait être les Linder, quoi. Et c'est vrai, et quand on s'intéresse un peu à tout ce mouvement-là, duquel est issu de Ligny, l'idée de pas imposer, l'idée de dire que la vie commune, c'est pas que on se lève, il y a le dîner à telle heure, il y a ceci, cela, et que le temps commun n'est pas, peut être aussi du malentendu. C'est-à-dire que c'est vrai que tu disais pour la société, pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait du malentendu, mais il y a à la base un truc, une pilule amère qu'il faut s'avaler, qui fait qu'il faut qu'on parle tous la même langue, de la même manière, et que quand on dise les choses, elles aient tous le même sens. Ça, c'est quand même... quand on est à l'école, c'est ce qu'on apprend. Quand on apprend à parler, et Dieu sait si c'est important, mais il y a ce truc de tous se conformer à un truc, les règles de grammaire, en premier, pour qu'on puisse après... dire la même chose quand on dit des trucs, et qu'on puisse tous parler pareil, quoi. Mais
finalement, on est arrivé au moment de la même vocabulaire pour faire toutes les choses. Mmh. Le problème, c'est qu'on se rend compte, dans une écologie globale qu'on a fabriquée, une écologie des pratiques et des vies, que même, et là sans du tout avoir de position, je dirais, idéologique d'un point de vue de ce que la société devrait être, ou comme, mais même les sociétés les plus productives se sont elles-mêmes piégées au fait d'avoir créé, réduit l'espace de ses marges, parce que le flâneur, il est aussi un outil du capitalisme, en fait, et ça, l'un des paradoxes, c'est qu'en gros, celui qui est en dehors du système a toujours été quelque chose qui permettait de le nourrir, et en créant ces vocabulaires communs dont tu parles, ben on se retrouve avec quelque chose où, quand tu finis par faire aboutir ce système-là, tu te rends compte que c'est beaucoup moins efficient comme société qu'une société qui n'avait pas, en fait, ces éléments de convergence. Et c'est pas tant pour le juger, encore une fois, moralement, mais plutôt pour le voir de manière beaucoup plus pragmatique, en fait. C'est-à-dire que la diminution du nombre de pratiques différentes des gens dans une société globale, nombre de choses différentes et de manière différente de faire les choses, cette réduction radicale de nombre de manières de faire devient y compris un problème pour les modèles qui ont cherché à les mettre en place. Y compris le modèle le plus contemporain du capitalisme est bien emmerdé du fait que les gens ne font plus les choses de deux manières différentes. Parce que quand il y a une seule manière, pour moi, c'est le syndrome Coca-Cola, par exemple, où quand l'entreprise où tu es la boisson la plus bue au monde après l'eau, ton seul avenir, c'est de t'effondrer pour avoir de la marge de progression. Parce que tu ne peux plus rien progresser en rien, puisque tu dis, voilà, il reste remplacer l'eau, évidemment. Mais en gros, c'est le paradoxe d'avoir créé une forme un vœu de domination qui est pris à son propre piège, puisqu'il a créé une uniformisation qui va aller contre elle. Contre la possibilité de se développer. Il me semble que ces espaces-là de marge, et le flâneur est bien quand même examiné par Benjamin aussi dans une perspective critique, parce qu'il y voit un espèce de ressort du capitalisme. Il y voit une espèce d'extériorité qui ne fait sans cesse que le nourrir, et qu'effectivement le travailleur contraint a besoin d'une contre-figure pour que ça puisse continuer, en fait. Quoi. Et quelque part, ils sont effectivement complètement liés. Après, moi, je pense que ce qui est tout à fait différent dans l'analyse qu'on doit avoir, c'est aussi la référence au 19e et la question de la contrainte par le travail. Pour moi, elle disparaît. Je pense plus que l'enjeu, c'est de contraindre les gens par le travail. Pour moi, je pense plus que le modèle dominant cherche à absolument faire travailler les gens. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ça l'objectif. Je pense qu'elle cherche à avoir le plus de disponibilité des gens. Donc on passe du travailleur au consommateur. Et ça, pour moi, c'est un paradigme qui change totalement la donne, parce que tout ce qui va être comme outil de déconstruction du travail aujourd'hui ne peuvent plus opérer de la même manière si on part du principe qu'en fait, le système, en gros, s'il est en capacité de consommer, s'en fout que vous travaillez. Ce qui n'est pas la même équation que le 19e. Le 19e, c'est par le travail que tout se passe. Là, moi, j'ai l'impression que le non-travail est aussi capitaliste que le travail. Donc c'est un paradoxe un peu... il me semble important. Et donc le distrait là-dedans est peut-être encore celui qui peut continuer à ne pas être quand même disponible, non pas d'un point de vue héroïque, mais d'un point de vue empirique, par accident en quelque sorte, puisque le distrait ne peut pas se décréter distrait. Comme je trouve que dans Ismaïl, et c'est pas ne pas rendre honneur à son travail, mais quelque part. La chose la plus forte de la proposition ici se déroule par accident. Mais le soin pour les accidents est quand même quelque chose qui, pour moi, est un art. Donc il y a quelque chose qui, tu vois, il y a quand même, il faut pouvoir le voir et savoir le recueillir. Cependant, ça se passe par accident. Comme dans Orientation, la vidéo qui était un peu en amont de ce verre d'encre était déjà, en fait, ponctuée par un accident et ouvrait la même problématique que celle qu'on voit ici.
Ah oui, tout à fait. Non, c'est certain. Et c'est pour ça que l'histoire de cette exposition, c'est, si je devais la résumer, c'est l'histoire d'une tentative de maîtrise qui, à un moment donné, j'ai lâché prise, quoi. Tentative de maîtrise parce que j'avais affaire à un dispositif que j'essayais de maîtriser, de comprendre, de développer. Il y avait une forme d'obsession d'arriver à faire quelque chose de maîtrisé, de, jusqu'à ce que je comprenne que voilà, ça se passait. Le plus intéressant, c'était ce qui me côtoyait et qu'il fallait lâcher prise, simplement. Ce qui est le cas de beaucoup. C'est souvent comme ça, de toute façon. Hein. Souvent. Mais à chaque fois, on renouvelle l'expérience. Donc l'année prochaine, ou là, je suis sûrement en train de faire la même expérience, mais c'est comme ça, quoi.
Qu'est-ce que ça ouvre peut-être aussi pour conclure là-dessus? Qu'est-ce que ça ouvre à vous déposer une question?
Juste, c'est pas vraiment une question, mais juste une chose déjà, Coca-Cola a remplacé l'eau, enfin remplacé l'eau pas vraiment, mais il y a des pays où ça coûte moins cher que l'eau en tout cas. Et, donc, c'est quand même assez saisissant. Non, juste, enfin en vous écoutant et en repensant à la Tunisie que je parcours un petit peu depuis quelques années. Moi, la figure qui me venait, c'était une sorte de flâneur ou peut-être un référent, parce que c'est des flâneurs immobiles, mais c'est ces hommes qui sont sans travail, en plus, justement, et qui essayent de passer le temps dans les cafés. Et, alors, parfois en groupe, et donc là, il y a la parole, mais aussi beaucoup seuls. Et ça m'a beaucoup frappée, moi, dans des hommes comme ça qui passent des heures et des heures et des heures et des heures dans les cafés. Et qui observe généralement le dehors, donc qui pour le coup observe le mouvement et regarde passer le monde devant eux. Mais et voilà, c'était juste ça. Juste en vous écoutant, j'avais cette image-là qui revenait, qui m'a beaucoup saisie, et je me disais peut-être que c'est ça le flâneur en Tunisie. Enfin, je sais pas.
Je sais pas du tout. En Algérie, on appelle ça le hittiste, celui qui tient les murs. Et qui voilà et qui du coup ça vient de hit, c'est-à-dire le mur, et qui ils sont ils passent leur journée adossés au mur, et la société leur a donné une fonction. Étant donné qu'ils en ont pas, ils disent bon bah toi tu tiens le mur, quoi. Et je trouve c'est très beau, comme c'est très poétique, très beau, parce que c'est comme si en fait ils tenaient l'ensemble, en fait, et que s'ils trouvaient un vrai travail, bah tout s'effondrerait, enfin dans l'imaginaire.
C'est bien que ça rejoint aussi peut-être dans ta manière de filmer les corps qui bondent dans ces vidéos-là, qui sont celles où le corps apparaît peut-être de manière de plus sensuelle, ou en tout cas très fort dans ce travail-ci, notamment dans la projection qui est ici. Je m'étais dit aussi, la Tunisie. Moi, je ne connais pas la Tunisie, et du coup, je vois essentiellement des corps dans le travail d'Ismaël et des paysages. Et je me disais aussi, ce qui était assez intéressant, parce que ça rejoint aussi une sensation qu'on a, je trouve en banlieue parisienne. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je me suis toujours dit, bon, ben, les gens, ils vont savoir assez significativement ce qui va être les repères architecturaux de la ville de Paris, quoi. On va dire, voilà, le style haussmannien, la tour Eiffel, la tour, quoi. Donc, en tout cas, des éléments qui sont extrêmement signifiants dans l'architecture. Et donc, la ville va être définie par ça, en fait, par ces points de vue. Et je trouvais qu'à contrario, la banlieue, en fait, c'était l'architecture, c'est les gens, en fait. Et donc, ce qui va être très signifiant quand tu grandis en banlieue parisienne, c'est de reconnaître un certain type de corps, un certain type de posture. Donc, encore une fois, la question de tenir les murs, et parfois d'être soi-même, en fait, quelque part, le paysage, et d'être soi-même les murs, quoi. Et ça, je trouve ça. J'ai pensé la dernière fois que j'avais l'exposition, je dis, mais ces corps-là, c'est l'architecture de l'endroit, quoi.
Ah, tout à fait, c'est possible. Et il se trouve que ces hittistes-là, je les ai beaucoup filmés. Il y a peut-être une dizaine d'années. J'ai des films de ces gens, mais je n'ai jamais rien fait, ne sachant pas quoi faire, vu que pour moi c'est tout ça infilmable. Mais je les ai revus il n'y a pas longtemps. Voilà, je mettais une caméra, je filmais les gens qui attendent. Et c'est vrai que... Et pour les avoir observés, c'est vrai que c'est un rituel. Ils se mettent au même endroit, et du coup il y a des territoires qui se créent... je sais pas quoi dire.
La notion de flâneur immobile, moi j'ai bien aimé l'expression, parce que ça se rapportait à ton travail, le flâneur immobile.
Le flâneur immobile, oui, peut-être. Oui, c'est possible. C'est possible vu qu'on est, il me semble, en tout cas, à chaque fois dans un état statique aux choses, c'est-à-dire on est dans la position d'observateur. Quoi. Et la question de l'observateur, elle est très importante ici. C'est-à-dire on observe, mais on est également observé. On observe dans le noir, depuis un interstice, mais également on est comme observé par des gens qui observent l'expérience et qui la décrivent. Quoi. Et ce qui m'a paru frappant par rapport à la figure du distrait, là, c'est ce que je décrivais un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, en fait, ce qui se trame dans cette exposition, c'est les alentours, l'abord, en fait. Tout se passe dans l'abord, c'est-à-dire autour des choses, c'est-à-dire autour de l'espace, de l'autre côté de l'écran. Et du coup, c'est un peu vraiment, c'est peut-être cette figure de l'abord qui est intéressante et qui peut rejoindre cette histoire du distrait là, qui finalement ne regarde pas forcément là où il faudrait regarder, mais regarde dans les abords des choses ou du circuit.